dont il doit se débarrasser. Hitler le pousse donc à se présenter aux élections présidentielles. Résultat, 1% des voix. Hitler peut écarter son rival de sa route. Hindenburg, autre figure de la Grande Guerre, est élu. Le NSDAP est de nouveau autorisé et compte bientôt 70 000 adhérents. Les nazis sont de retour. Les sections d'assaut prennent aussi une importance énorme et commencent à terroriser la population. Dès 1927, grâce au financement nourri des adhérents, dont font partie Hugo Boss et Henry Ford, de grandes réunions du parti et des SA sont organisées à Nuremberg. Le but du chef, inspirer la confiance, séduire un nouvel électorat qui ne mord pas à l'hameçon. En 1928, les nazis font trois fois moins de voix que les communistes. Les socialistes dépassent les 10 millions de sympathisants. C'est une véritable déculottée. Il n'empêche, 12 sièges de députés permettent au parti d'intégrer les plus hautes instances de l'État. Göring, qui s'est planqué après le putsch manqué, est l'un d'eux. Cette bande est menée par Goebbels, un homme qui va prendre du poids dans le fonctionnement du mouvement nazi. Le Reichstag se teinte un peu de brun, mais la République de Weimar fonctionne. Le pays a remis son économie à flot et artistiquement, tout va pour le mieux dans les plus grandes villes. Il n'y a qu'une chose que personne n'a vu venir, la Grande Dépression. En 1929, un énorme krach boursier en Amérique provoque un séisme mondial. L'Allemagne est en première ligne et doit bientôt composer avec 6 millions de chômeurs. Comme souvent, lorsque les sociétés connaissent de grandes crises, les extrêmes en profitent. Communistes et nazis accueillent bien volontiers les déçus de la République. Le régime ne parvient pas à juguler cette très grave crise économique. Durant la campagne suivante, Hitler change de stratégie et décide de se placer en opposition frontale face aux communistes. Il cherche à attirer le vote des classes plus aisées, celles des commerçants et des bourgeois. En septembre 1930, quelques mois après la première de grandeur et décadence de la ville de Mahagoni, de Weil, c'est le jackpot. Le parti fait entrer 100 députés au Parlement, devenant la principale force d'opposition aux socialistes. Pourtant, ceux qui dirigent ne semblent pas vraiment inquiétés par cette percée. Hitler n'est pas pris au sérieux. C'est une constante depuis ses débuts. Les classes sociales habituées au règne du pouvoir estiment qu'il ne vaut rien. Il est dangereux, pas assez intelligent pour parvenir au plus haut sommet de l'État. Il se trompe lourdement. Hitler est en marche vers la gloire et le chaos. L'arrondissement, la salle Gaveau a pris l'habitude depuis longtemps d'accueillir de grands concerts classiques. Depuis la diffusion de l'adaptation cinéma de l'opéra de Katsu, l'année précédente, Kurt Weill est devenu très populaire dans le pays des Lumières. Ce soir, le vicomte en mécène de l'art français l'a convié à un concert en son honneur. Plus il y séjourne, et plus Weill affectionne la France. Il faut dire qu'en Allemagne, la situation commence à se tendre sérieusement. Les nazis ne sont pas au pouvoir, mais c'est tout comme. Les dernières élections en juillet puis en novembre leur ont permis d'atteindre des scores fleuves, 37 puis 33%. Une baisse synonyme de grosse déception pour Hitler, il l'empêche. Le NSDAP s'impose comme le principal parti politique allemand. Engoncé dans son fauteuil, bercé par les notes de son « celui qui dit oui, celui qui dit non », Kurt Weill pense à son ami Brecht et à leur devenir. Sous les dorures du plafond de la salle Gaveau, le compositeur se forge une certitude. Si Hitler parvient au pouvoir, il lui faudra partir. Paris semble la ville d'exil la plus adéquate, alors que s'y trouvent déjà ses amis Milo ou Rivière. Comment l'Allemagne a-t-elle pu se retrouver sur le point de basculer dans l'inconnu, alors que la République de Weimar prospérait dans la seconde partie des années 20? Cette question reste sans réponse dans l'esprit du musicien. La grande histoire va se charger d'éclairer sa lanterne. Très fracassante au Parlement, les nazis prennent de plus en plus de place dans tous les secteurs de la société. Mais en septembre 1931, un scandale éclate. Gelly Robal, la nièce d'Hitler, se suicide dans l'appartement de l'homme politique avec l'un de ses pistolets. L'affaire est complexe, bizarre même. Hitler a été très protecteur avec elle, trop aimant pour que cela soit sain. Alors qu'elle a une relation avec son chauffeur, il renvoie ce dernier sans ménagement. Les sorties de la jeune femme sont encadrées par des hommes de main du régime. Sa vie devient invivable. En apprenant le suicide, la presse se charge d'alimenter le scandale. La figure du leader vacille. Hitler manque de tout perdre. On dit qu'il l'aurait fait tuer alors qu'elle voulait s'enfuir, qu'il l'aurait perverti sexuellement. Hitler plonge dans une dépression terrible avant que ses amis proches ne lui présentent une certaine Eva Braun. Elle sera sa compagne jusqu'à la fin. L'affaire se dégonfle. Au début de l'année 1932, la trajectoire de l'homme repart de plus belle. Il se présente lui-même aux élections présidentielles, mais il est battu par Hindenburg, malgré une campagne moderne absolument délirante. C'est la presse qui, en partie, lui coûte cette défaite. De nouvelles élections législatives, provoquées par le président réélu, permettent aux nazis d'augmenter leur poids politique. Hitler est une bête de scène, n'hésitant pas à enchaîner plusieurs discours par jour. Chaque fois, la même radicalité dans ses propos, la même violence. Les sections d'assaut, dorénavant 400 000, sont chargées d'intimider les votants communistes dans tout le pays. Bientôt, c'est une véritable guerre de rue qui débouche sur des morts. En juillet, le résultat est sans appel. Les nazis peuvent compter sur 230 députés pour devenir la principale force politique du pays. Le point de bascule est proche. Il n'est pas encore là. Le président refuse de nommer Hitler chancelier, l'équivalent de premier ministre. C'est l'impasse. Alors Goebbels entre en scène et provoque un véritable blocage institutionnel. Pas de majorité possible. Le président Hindenburg n'a plus le choix. Nouvelle dissolution. En novembre, les électeurs sont rappelés aux urnes. Mais, à la surprise générale, le score nazi est en baisse. La percée ne se confirme pas. 40 députés en moins, c'est pas rien. Tout le monde pense qu'Hitler est fini. Grave erreur. Malgré cette défaite cuisante, le vieillissant président ne parvient toujours pas à former une majorité. Bientôt, une évidence s'impose, nommer Hitler comme chancelier. En janvier 1933, dans un froid polaire, c'est le triomphe. Hitler a atteint son premier objectif. Il tient les manettes. Le voilà aux responsabilités, mais il n'est pas encore le Führer. Ça viendra. Pour le moment, il avance avec discrétion, intégrant seulement deux ministres nazis dans son gouvernement. Les autres partis pensent qu'ils ont manipulé l'Autrichien. Énième erreur. Le 10 février 1933, pour damer le pion à ses ennemis socialistes et communistes encore présents en nombre au Parlement, Hitler décide de dissoudre l'Assemblée et de convoquer de nouvelles élections. Mais c'est un leurre. Le 27 février 1933, tout bascule. Dans la nuit, le Reichstag, le bâtiment du Parlement, chantre de la démocratie, part en fumée dans un incendie resté célèbre. Un communiste néerlandais est accusé et exécuté. Mais tout n'est pas si clair. C'est le début de la fin pour la République de Weimar. Face à un prétendu complot communiste, des milliers de personnes sont arrêtées. Les élections législatives suivantes, organisées sous la pression des groupes paramilitaires nazis, sont une énième déception. Le NSDAP est tout juste majoritaire. La colère d'Hitler est instantanée. Invalidation des résultats, arrestation des députés communistes et déportation, déjà, dans des camps de concentration. Dachau et Oranienburg sont inaugurés pour l'occasion. Ils seront bientôt plus de 100 000 opposants politiques à connaître les affres concentrationnaires. Hitler, lui, quitte ses atours démocrates. Il se fait voter les pleins pouvoirs. Il les obtient pour 4 ans. L'antisémitisme ne tarde pas à se répandre dans les rues. Les nazis ont les manettes en main. La République est morte, la démocratie aussi. Weil, lui, s'enfuit en France dès janvier 1933. Bientôt, il traversera l'océan pour rejoindre les États-Unis, dont il deviendra l'un des citoyens. lorsqu'à compter de ce moment, on le qualifiera de compositeur allemand. Il s'en insurgera. Bien que je sois né en Allemagne, je ne me considère pas comme un compositeur allemand. Il est clair que les nazis ne m'ont pas considéré comme tel. Et j'ai quitté leur pays en 1933. Je suis un citoyen américain. C'est parce que s'ouvre dès 1933 une période trouble, honteuse. Les œuvres de Weil, comme celles de tant d'autres artistes, seront victimes d'autodafés en Allemagne. On les brûlera. Le Reich, avec Hitler à sa tête, s'apprête à faire basculer le monde entier dans un nouveau tourbillon. S'annonce la marche vers la guerre et sa cohorte de malheurs.